Bonjour à tous. On va pouvoir commencer cette conférence autour de la question « L'imagination a-t-elle des limites ?» Alors, de droite à gauche, nous avons Gérard Klein, Thierry Dirolo, Vincent Gessler et Xavier Mauméjean. Donc, cette problématique est, à mon avis, centrale dans la théorie de la science-fiction, puisque elle nous pousse à réfléchir sur les propres limites du genre, puisque l'imagination est bien entendu au centre de la création artistique, mais comment cela peut-il comment ces limites transparaissent-elles dans la science-fiction? Je vous vois prendre votre micro. Vous voulez déjà intervenir ou...
C'est pour être armé.
Ah, d'accord. Donc on peut toujours se demander ce qui fait le terreau de l'imagination. C'est-à-dire que est-ce que on peut créer quelque chose de totalement pur, de totalement épuré du monde réel, qui serait le monde réel, et donc est-il une limite pour notre imagination? Il me semble que Descartes, dans les méditations métaphysiques, précisait bien cela, que en parlant des peintres, il pouvait créer des monstres qui n'étaient que chimériques, mais qui étaient des parties de créatures qui existaient déjà dans le monde réel, et donc que même s'il y avait un talent pour supprimer ou pour masquer cette chimérisation, finalement il s'agissait toujours d'un collage de créatures déjà existantes. Et donc on peut si quelqu'un veut déjà commencer par...
Bien. Je souscris tout à fait à ce point de vue, que j'exprimerai un peu différemment de mon collègue Descartes. Je pense que l'imagination fonctionne par association. Association en grande partie inconsciente, fort heureusement, et en partie consciente et délibérée. Or, il faut qu'il y ait du matériau associé, ou plutôt des matériaux associatifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des siècles, au fur et à mesure que la culture, et très récemment que la culture scientifique s'élabore, le matériau de ces associations s'enrichit considérablement. Donc l'imagination au temps d'Homère n'est pas du tout la même, je dirais même scandaleusement qu'elle est beaucoup moins riche que l'imagination aujourd'hui. Donc c'est peut-être sur ce matériau associatif que nous pouvons essayer de réfléchir.
Alors, à la suite de Gérard Klein, mais en revenant à Descartes, je reviendrai au paragraphe 26 des Passions de l'âme, qui vient préciser davantage ce qu'il dit dans les méditations. En fait, l'imagination déjà est une faculté de l'esprit, qui distingue en deux tons. Il y a l'imagination reproductrice qui donne, sous forme d'image mentale, un équivalent de ce que la perception a capté à l'extérieur. Donc j'ai l'image arbre qui correspond à la réalité extérieure arbre. Et cette imagination, elle est commune à tout le monde. Donc déjà, dans l'usage commun, quand on dit que quelqu'un il a de l'imagination, c'est ridicule. Tout le monde a de l'imagination, puisque tout le monde a cette faculté. Puis, dans un deuxième temps, il y a cette imagination créatrice qui procède par combinaison, ce que Descartes appelle des fictions, par combinaison d'images prélevées dans le contenu de l'imagination reproductrice. Donc, en fait, notamment, et je ne sais pas ce que Gérard en pensera, mais par rapport aux discussions de coin de table sur la littérature de l'imaginaire, toute littérature et littérature de l'imagination mais peut-être qu'on pourrait discuter d'une littérature de l'imaginaire, qui serait dans ce cas cette capacité à créer des fictions et non pas de la reproduction.
Sur cette capacité à imaginer, on peut rebondir aussi sur cette, vu qu'on est dans les phrases un peu bateau, il a de l'imagination, c'est aussi les enfants de l'imagination, comme ils arrivent à bien recombiner les choses. Et j'ai envie de rebondir sur une note de Boulet, je ne sais pas si vous connaissez ce blogueur qui dessine, et qui avait fait des animations en classe, et puis qui était effaré à quel point justement les élèves n'avaient pas d'imagination. Alors c'était assez drôle comme il présente ça en dessin. Il disait, bon voilà, alors on pourrait trouver des sujets pour dessiner quelque chose, et puis ouais, je veux faire un Titeuf, je veux faire que des figures connues. Puis lui, il leur dit, non, mais un petit peu d'imagination, essayez autre chose, je sais pas, des robots à tentacules, des extraterrestres. Alors qu'est-ce que vous voulez? Ouais, des robots à tentacules, des extraterrestres. Et finalement, il faisait que reproduire ce qui était proposé. Et bah, ça me fait penser aussi à ce que me disait un ami prof qui est au strike des enfants, qui me disait un peu la même chose. Et au fond, je crois que l'imagination, bah, comme tu as justement dit, c'est une compétence qui passe par une phase d'apprentissage. Et c'est l'apprentissage de s'approprier les notions du monde réel, d'en faire une émulation dans notre esprit, et après de recombiner ça. Et j'ai l'impression que sur le terrain de la fiction, il y a des récits qui se sont fait une spécialité de parler de ce rapport à l'imago, à la création d'images, et à cette recombinaison, peut-être à des fins d'efficacité émotionnelle ou narrative. Et je trouve qu'avec les récits de science-fiction, on est au cœur de ça. On arrive vraiment à avoir des récits qui ont cette spécificité, peut-être plus qu'un récit autobiographique, de jouer sur l'image, sur la représentation, par des charges symboliques ou métaphoriques.
Il y a un tout petit exercice qui est marrant à faire. Si on était dans une salle de concert, on dirait « levez-vous ». Imaginez un point, tout le monde y arrive. Imaginez une droite, tout le monde y arrive. Imaginez un triangle, tout le monde y arrive. Imaginez un carré, tout le monde y arrive spontanément. Imaginez un pentagone, il y a déjà des gens qui commencent à réfléchir. Et à hexagone, l'imagination est en perte de vitesse. Donc notre imagination, en tant que faculté, est très limitée.
Oui, alors, je vais revenir sur ce que disait Vincent tout de suite. J'ai perdu mon propre fil, ce qui m'arrive de temps en temps. Oui, l'injonction « ayez de l'imagination » est une injonction parfaitement paradoxale. Il n'y a pas de façon plus sûre d'interdire à quelqu'un d'avoir de l'imagination. Alors, en ce qui concerne les combinaisons, ce que j'appelais moi association, mais au fond c'est exactement la même idée, je crois que ce qui est très intéressant pour nous, c'est que les matériaux, les éléments qui sont associés sont très différents dans les différentes littératures de l'imaginaire. C'est pas du tout la même chose dans le domaine de la science-fiction et dans celui de la fantasy, soit dit entre nous, que j'aborde, comme chacun sait, pas entièrement ni complètement. Les emprunts de la science-fiction sont largement faits à un domaine fantasmé ou fantasmatique de la science, mais enfin bon, quelque chose qui touche à du réel, tandis que c'est un autre registre de désir que mobilise la fantaisie, à mon sentiment.
Est-ce que ça pourrait pas se jouer au niveau du sens, justement? C'est qu'il y a des figures allégoriques ou symboliques, ou simplement porteuses de sens, qu'on trouve en science-fiction, qu'on trouve en fantaisie aussi, et il pourrait pas y avoir une sorte d'équivalence dans la recombinaison de ces figures de sens?
Je vais y réfléchir, je vous donnerai une réponse dans 3 semaines. Je pense vraiment, pour connaître quand même un peu ces deux littératures, nettement mieux la science-fiction, mais j'ai quand même édité pas mal de fantasy, que les fonctionnements sont très différents et les matériaux aussi. Alors, est-ce qu'il y a des éléments communs qu'on pourrait qualifier d'archétypaux auxquels je ne crois pas beaucoup? Peut-être. Je vous dis ma réponse dans 3 semaines.
Ben, du coup, moi, je me posais une question sur ces limites. C'est la question de l'horreur non euclidienne chez Lovecraft. Cette espèce de parti pris de Lovecraft de ne décrire que par son nom et qui est aussi porteur de sens un monstre qu'on n'arrive même pas à imaginer. Dans ces cas-là, quel peut-être ce monstre, est-ce que là on n'atteint pas vraiment la limite, ou est-ce que Lovecraft aurait réussi à dépasser cette limite de la chimérisation de l'imagination?
Je crois que chez Lovecraft, et pas seulement chez lui, il y a ce que j'appellerais le saisissement de l'incompréhensible. Alors, il tourne autour de ce qui est barré, et en effet, il ne constitue pas par chimérisation un monstre à proprement parler, encore qu'il y a beaucoup de chimères chez Lovecraft. C'est aussi, il constitue une espèce de chimère d'adjectif. C'est-à-dire, à force, c'est ce qui peut en fatiguer certains, d'insister sur le fait que c'est épouvantable, horrible, fantastique. Enfin, je vous laisse le soin de trouver le vocabulaire qui convient, les adjectifs qui conviennent. Il finit effectivement par instiller un doute, puis une inquiétude, enfin, ce saisissement de l'incompréhensible, sans, à proprement parler, décrire le monstre. Et je trouve d'ailleurs qu'il est plus efficace quand il ne le décrit pas que quand il lui arrive de le décrire. J'ai pas les textes précis en tête, donc enfin, mes voisins qui sont beaucoup plus érudits sauront certainement trouver lesquels.
C'est la force de la suggestion. On peut permettre à un public, après, de s'approprier son propre système de référence, s'appropriera ce qui est suggéré. Donc c'est toujours beaucoup plus efficace. Ça me fait penser à un rêve que je faisais étant enfant, qui était très étrange, parce que je me retrouvais projeté dans un espace imaginaire peuplé de bestioles immondes. Et au réveil, j'arrivais pas à les décrire. Elles étaient une sorte de créature porteuse d'une émotion de terreur, de peur, sont ces peurs paniques de l'enfance, etc. Sauf que ces créatures, elles rayonnaient ça, et quand je les regardais, elles changeaient de forme très très vite, elles prenaient plein d'apparences tentaculaires, tantôt avec des becs, mais l'esprit était incapable de s'arrêter sur une de ces images, ou d'isoler ce qui lui faisait frémir. C'est une espèce d'ensemble, une sorte de grosse polarité magnétique d'image. Et je me demande si c'est pas ce genre de choses que joue Lovecraft, ou quand on parle des limites, de la limite de la représentation, ça va être ce que chacun peut représenter.
Mais sur la suggestion, sur l'exemple précis de l'horreur non euclidienne, justement, le non euclidien, justement, on bouleverse tout. Je sais pas pour vous si vous arrivez à vous. Si ça vous suggère quelque chose, moi je sais que horreur non euclidienne, ça ne me suggère strictement rien en fait. Je ne sais pas si là c'est le principe de la suggestion qui fonctionne.
Oui, mais alors là je crois qu'il y a quelque chose qui est historiquement très daté. Le non-euclidien qui apparaît dans ses formes modernes dans la deuxième moitié les géométries non-euclidiennes du 19e siècle, on m'interrompt si je me trompe, grosso modo, l'idée de la quatrième dimension, etc., qui est pas mal exploitée à peu près à la même époque, crée un sentiment d'indicible étrangeté et par conséquent d'horreur, parce que précisément on n'y est pas habitué. Bon. Et je pense que, alors c'est là-dessus que Lovecraft, mais pas seulement lui, d'innombrables écrivains jouent, jusque Maupassant, en allant chercher un peu dans les coins, nous qui sommes beaucoup plus habitués, non pas tant à la perception qui pourrait se cacher derrière ces concepts, mais enfin à leur maniement dans le langage presque courant, c'est beaucoup moins étonnant pour nous. Donc je crois que, et ça revient à ce que les gens disaient tout à l'heure, chez moi-même, c'est la combinaison, les combinatoires possibles entre des éléments préexistants changent avec les époques, avec les moments historiques. Donc nous ne pouvons pas construire aujourd'hui de l'imaginaire, de l'imagination, de l'insolite comme à l'époque de Lovecraft, et nous ne pouvons pas non plus tout à fait la percevoir de la même manière.
Par rapport à, comment ça s'appelle, le non-euclidien, le... L'horreur non euclidienne. Bon, je ne voudrais pas être celui qui gâche la fête tout le temps à cette table ronde, mais ça a été dit dès le XVIIIe siècle. Ça, par exemple, la notion de sublime en philosophie chez Burke ou Kant, qui est de concevoir que certaines choses dépassent l'entendement, notamment la série des chiffres, tout simplement, qu'il y a des choses que l'on ne peut pas... capturé, que l'on ne peut pas prendre par l'esprit,